Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es, de ce que tu es là dans ce lieu de culte. Tu nous accompagnes, mais aussi la parole de Dieu dit que tu es là dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre être. Quel bonheur, Seigneur, de savoir que celui qui a créé le ciel et la terre, les étoiles, la lune, les planètes, est avec nous. Il sait ce que nous pensons, il sait ce que nous vivons. Il sait ce que nous redoutons. Et il veut nous dire, ce matin, je suis avec toi, je t'aime. Tu peux me faire confiance. Oui, quel bonheur, Seigneur, de savoir ça. C'est quelque chose de tout simple, mais c'est quelque chose de tellement grand, Seigneur. Surtout quand ça vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Alors nous avons confiance. Et nous te bénissons, Seigneur, de toutes nos forces d'être là présent ce matin avec nous. Amen.
Amen.
Je voudrais vous lire quelques versets du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance produit une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ce troisième, c'est ce cinquième verset que je développerai plus que les quatre premiers. Les quatre premiers versets du passage que je viens de lire sont comme un condensé de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour sauver les hommes de la mort spirituelle dans laquelle les entraînait leur rébellion contre Dieu. Ne nous faisons aucune illusion. De par notre nature pécheresse, nous étions tous en rébellion contre Dieu, car nous étions tous pécheurs, et donc, comme le dit l'apôtre, privés de la gloire de Dieu. En Romains 3, 23. L'œuvre de Jésus par sa mort sur la croix, qu'est-ce que c'est ? C'est de nous avoir justifiés, c'est-à-dire rendus justes, non pas à cause de nos actes, même les plus généreux et les plus grands, mais par la grâce imméritée qu'il nous a accordée lorsque nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Et je cite Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Justifiés par grâce, nous sommes donc maintenant en paix avec Dieu. C'est-à-dire quoi ? Être en paix avec Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc, assurés de prendre part à la gloire de Dieu lors du retour de Christ qui a été promis et qui viendra. C'est ce que dit notre texte. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est le verset 2b. Dans la Bible, frères et sœurs, le mot « espérance » ne signifie pas qu'on n'est pas sûr de ce qu'on attend. L'espérance chrétienne, c'est une certitude fondée sur quoi ? Sur les promesses de Dieu. Alors, quelle est l'origine de ces grâces inouïes que je viens de décrire ? Eh bien, le verset 5 nous répond, c'est l'amour de Dieu. Or, cette espérance, qu'est-ce que c'est l'espérance ? L'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, pas promis. Donner. Si l'amour de Dieu est capable d'engendrer d'aussi grandes grâces, il est important que les chrétiens ne voient pas dans cet amour une idée abstraite, un dogme désincarné qui les laisse sans émotion. Par cet amour, Dieu veut toucher le cœur de ses enfants, que nous sommes tous. Il désire, Dieu, que chacun d'eux expérimente la force et la douceur de son amour. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. C'est lui qui a fait la nature que nous avons. S'il nous a créés avec la possibilité d'exprimer des sentiments, ce n'est pas pour rien. Il sait que l'amour ne se goûte pas avec l'intellect, mais avec le cœur. C'est donc avec le cœur qu'il veut aussi nous faire expérimenter son amour. Combien de chrétiens savent intellectuellement que Dieu est amour, sans avoir jamais ressenti une seule émotion par rapport à cet amour. Combien de chrétiens disent que Dieu est amour, sans pouvoir parler de cet amour, parce qu'ils n'ont pas expérimenté émotionnellement la douceur et la force de cet amour. Si vous êtes dans ce cas, n'en prenez pas votre parti. Ne dites pas, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il veut au contraire que vous expérimentiez existentiellement son amour, que vous goûtiez son amour. Et j'ajoute qu'il le veut sans doute plus que nous, parce qu'il nous aime comme jamais nous ne pourrons l'aimer. Oui, Dieu veut cela parce qu'il sait que son amour est seul capable de combler une vie, votre vie, ma vie. En effet, l'amour de Dieu, c'est essentiel dans une vie. Tout le reste de la vie dépend de cet amour quand il est accueilli, quand il est vécu et quand il est entre vous. Alors, comment goûter cet amour? Eh bien, pour répondre à cette question, je reviens à notre texte. Le verset 5 nous montre le processus. Il nous donne la solution pour passer d'un amour que l'on conçoit intellectuellement à un amour que l'on vit existentiellement. D'un amour qui nous laisse sans émotion à un amour qui comble notre cœur d'une joie et d'une paix immense. Paul écrit ceci, comme vous l'avez déjà entendu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je voudrais faire quelques remarques. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Comme le fait remarquer l'apôtre Jean, je cite, « Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » C'est dans 1 Jean 4, 10. Et la preuve de cet amour, l'incarnation de cet amour, c'est qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne s'est pas contenté de dire qu'il nous aime. Il l'a prouvé par le sacrifice de Jésus sur la croix. Deuxième remarque. Il est important de bien comprendre le sens du verbe « répandre ». Dans cette phrase, l'amour de Dieu est répandu. Ce verbe exprime une action qui s'accomplit dans la durée. C'est le contraire d'une action ponctuelle. L'amour de Dieu, c'est comme l'eau d'une source qui coule sans arrêt et se déverse dans le cœur de l'homme. L'amour de Dieu, il est constant. Contrairement bien souvent à celui de l'homme, il ne change pas, il ne varie pas, comme le dit l'apôtre Jacques, je cite, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça c'est dans Jacques. Chapitre 1, verset 17. La source d'amour de Dieu n'est pas comme certaines sources d'eau qui tarissent pendant les canicules. Le débit de la source d'amour de Dieu est constant. Ce n'est pas du goutte à goutte comme on le voit parfois dans les fontaines de village. Le débit, il est abondant. Car c'est le débit d'un cœur de père qui aime ses enfants. Même lorsque Dieu est en colère, parce que les hommes n'écoutent pas sa voix, son amour reste intact. Écoutons ce que dit Dieu par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, oui, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. C'est dans Ésaïe, chapitre 5, verset 8. Troisième remarque. Où cet amour est-il répandu? Le texte est précis, et j'ai vérifié, dans le texte grec, il n'y a pas d'erreur, c'est dans nos cœurs. Pas dans nos têtes. Le cœur, c'est quoi? C'est le siège de nos émotions. Dieu veut que ses enfants ressentent son amour émotionnellement, tout comme lui, Dieu, ressent de l'émotion. Cette idée vous surprend-elle que Dieu ressente de l'émotion? Celui qui a créé le ciel, la terre et l'univers peut-il avoir des émotions? Oui. Écoutez ce que dit Dieu en parlant de son peuple. Il parle d'Éphraïm. Qui est Éphraïm? Éphraïm, c'est le fils cadet de Joseph, celui qui a été, après avoir été vendu comme esclave, premier ministre du Pharaon en Égypte. Hein? Voilà. Et puis par la suite, ça a été le nom d'une des tribus importantes du peuple d'Israël, Éphraïm. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi, mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui. On trouve ça dans Jérémie 31, verset 20. Pensez-vous que le cœur de Jésus n'ait jamais été rempli d'émotion lorsque la voix de son Père s'est faite entendre au moment de son baptême, quand Dieu a dit et que Jésus, son Fils, a entendu « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection » Luc 3, 22. Bien sûr que si. Car Jésus, tout Fils de Dieu qu'il est, manifestait ses émotions. Les évangiles rapportent deux épisodes où Jésus a pleuré. La première, c'est devant Jérusalem, en Luc 19, et la seconde, c'est devant la tombe de son ami Lazare, qui était mort depuis 3 jours, Jean 11. Alors, frères et sœurs, bien sûr que les émotions ne doivent pas être au centre de notre vie de foi. Nos émotions ne doivent pas conduire notre vie de foi, mais elles font aussi partie de notre vie de foi. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer aimer vos enfants, votre conjoint ou vos amis d'une façon purement intellectuelle, cérébrale? Au contraire, nous ressentons une affection profonde pour ceux que nous aimons. Une émotion saisit notre cœur et nous aspirons à un échange dans l'affection, car l'amour est comme un dialogue, il circule de l'un à l'autre. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Il nous communique son amour en espérant que notre cœur sera ému et il y répondra. La quatrième remarque. Quel est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme qui permet de goûter à cet amour? C'est le Saint-Esprit. Je cite, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Galates 4, et aussi, si vous avez le temps chez vous, vous regarderez Galates 4, 6, 7, l'apôtre Paul reprend exactement la même idée. Sans le Saint-Esprit, la connaissance de l'amour de Dieu va rester une abstraction, un dogme, une connaissance intellectuelle. Si on a fait de la théologie, on est capable de décortiquer et d'analyser l'amour de Dieu avec des mots plus ou moins savants. Quand c'est savant, c'est encore mieux. Mais si on n'y goûte pas à cet amour, peut-on dire qu'on le connaisse vraiment? Non. Il manque quelque chose d'essentiel, l'expérience. Seul le Saint-Esprit nous permet de goûter l'amour de Dieu. Mais comprenons bien, dans ce verset. Il est question du Saint-Esprit reconnu comme présence de Dieu en nous, du Saint-Esprit accueilli, du Saint-Esprit désiré. Avant la conversion, le Saint-Esprit travaille secrètement dans nos cœurs. On ne sait même pas qu'il existe, mais il travaille déjà dans nos cœurs pour nous appeler à une rencontre personnelle avec le Christ. Bien sûr, l'homme est libre, nous pouvons lui résister au Saint-Esprit. Il ne s'imposera jamais parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. C'est lorsqu'on a répondu à l'appel de Dieu que le croyant prend conscience de la présence de l'Esprit en lui. C'est à partir de ce moment que l'amour de Dieu va pouvoir être ressenti comme une émotion profonde qui va envahir notre cœur. Si vous n'avez jamais ressenti émotionnellement l'amour de Dieu pour vous, il y a deux pièges à éviter. Le premier, c'est de dire ou de penser que Dieu ne vous aime pas. Dire cela, frères et sœurs, c'est faire de la Bible un tissu de mensonges. C'est faire de la crucifixion de Christ un événement sans importance. En effet, la loi, la foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu l'Esprit n'est pas fondée sur ce que nous ressentons, n'est pas fondée sur nos sentiments, sur nos émotions, mais sur quelque chose de parfaitement objectif. Pas subjectif, objectif. La parole de Dieu. Même si nous n'avons jamais ressenti l'amour de Dieu, la foi nous permet de dire: Seigneur, je sais que tu m'aimes, parce que ta parole le proclame, et je le crois. Le second piège à éviter, c'est de prendre son parti, de n'avoir encore jamais goûté l'amour de Dieu, ou si peu, et de penser que c'est normal, parce que beaucoup de baptisés autour de vous semblent être dans le même cas. Que le Saint-Esprit vous convainque à travers les textes bibliques que j'ai cités ce matin, pour que vous sortiez de ces deux pièges si vous y êtes tombés, et que vous n'y retombiez jamais plus. Alors, frères et sœurs, que faire concrètement pour expérimenter l'amour de Dieu? J'ai pensé à trois choses. La première, qui est la plus importante, assurez-vous d'abord que vous avez bien donné votre vie à Christ. Devenir chrétien passe par des engagements concrets, fermes avec Dieu. C'est une démarche indispensable. Si vous n'êtes pas au clair avec cette démarche, alors demandez à un frère ou une sœur de vous aider. La deuxième chose que je voudrais dire, quand vous avez fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ, de vous être repenti, d'accepter Jésus-Christ par votre cœur, de lui dire: Seigneur, je veux t'obéir, je veux que tu sois mon Dieu, pour tout le restant de ma vie. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de passer du temps en tête à tête avec le Seigneur. J'allais dire en cœur à cœur avec le Seigneur. Ne vous contentez pas d'une prière faite à la sauvette. Toute relation demande du temps pour s'approfondir, même avec Dieu. Sur le plan humain, que font les amoureux? Ils passent des heures à parler au téléphone. Ils s'envoient des SMS pour un oui ou pour un non. Eh bien, Dieu veut parler aussi avec vous. Ne laissez pas le téléphone sonner sans répondre, décrocher. C'est-à-dire, lisez et méditez la Bible. Parlez-lui dans la prière. Il veut vous dire, vous faire comprendre combien il vous aime. Il veut toucher votre cœur. Venez chaque jour au rendez-vous d'amour qu'il vous fixe. Faites-en la priorité de votre journée. Vous savez bien ce que c'est que la priorité. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Mais souvent, c'est autre chose que venir en relation avec Dieu qui nous préoccupe dans nos journées. Faites attention au rendez-vous que l'on remet au lendemain ou au surlendemain. C'est une habitude tellement vite prise. Et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. La troisième chose que je voudrais dire, que votre prière ne se limite pas à demander pour vous ou pour les autres. Il y a un temps pour demander, et c'est important. Et dans le Notre Père, ce temps existe. Mais privilégiez d'abord la prière de reconnaissance et la louange. C'est dans cette prière que l'intimité avec Dieu va grandir. Et pour apprendre cela, pour apprendre l'intimité avec Dieu, pour apprendre la louange, utilisez les psaumes. Il y en a 150. Et faites-en vos prières personnelles de ces psaumes. Ce n'est pas tordre la parole de Dieu que de faire des psaumes qui ont été écrits par David il y a 3000 ans. Oui, en faire sa prière personnelle. C'est légitime. Et on apprend à louer Dieu ainsi. Si vous adoptez fidèlement cette démarche, Dieu ne vous fera pas attendre longtemps avant que vous expérimentiez un cœur à cœur avec lui. Vous allez entrer dans un cercle vertueux qui vous fera grandir dans la foi et la confiance et vous permettra d'approfondir la relation merveilleuse avec votre Papa céleste. Je dis Papa parce que Jésus nous a dit que nous pouvions appeler Dieu, celui qui a tout créé dans le ciel, le ciel et la terre. On peut l'appeler Abba. Et Abba, en hébreu, ça veut dire Papa. Et lorsqu'il vous arrivera, et ça vous arrivera, de venir au rendez-vous divin avec un cœur complètement sec, comme l'estrade, comme le bois, ne vous laissez pas décourager. Vous pourrez dire en toute confiance et en toute vérité, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et moi aussi, je t'aime. Et vous constaterez, bizarre, hein, que 9 fois sur 10, votre cœur s'ouvrira bientôt, tout grand, à la tendresse de Dieu. Et c'est ce qu'il veut. Et il le veut encore plus que nous. Oui, Seigneur. Fais-nous comprendre ce que ton Saint-Esprit a voulu nous dire ce matin. Affermis-nous, Seigneur, dans la foi. Et fais-nous comprendre que cet amour que tu nous manifestes, pas depuis ce matin, pas depuis hier, pas depuis 15 ans, depuis que tu nous connais, c'est-à-dire depuis que nous avons été conçus dans le sein de notre maman. Que cet amour, tu veux nous le révéler. Que cet amour, tu veux nous le faire expérimenter. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'amour, Seigneur ? Rien. Et d'ailleurs, la définition de Dieu dans toute la Bible, c'est Dieu est amour. Alors que nous goûtions cela, Seigneur.